Et donc, on va continuer dans la ligne qu'on avait commencée. On a parlé des dons de l'esprit et il y a eu, vous le savez, je pense, un dérèglement au niveau de cette vision des dons de l'esprit qu'on appelle le pentecôtisme. Alors, je vais dire tout de suite, les pentecôtistes sont mes frères et mes sœurs. Ce sont des frères et sœurs en Christ. Et dans le monde pentecôtiste, il faut bien comprendre qu'il y a des extrêmes et des extrémistes, et qui font que si certains frères pentecôtistes, on peut les côtoyer, et j'en connais certains, sur certains sujets on n'est pas d'accord, donc on ne va pas les aborder, et je veux les aimer comme ils m'aiment. Par contre, il y a d'autres, jusqu'au bout, d'autres côtés, qui font que ben, on ne peut pratiquement pas avoir de communication parce que la vision du salut est différente. Quand la vision du salut est différente, là, malheureusement, les ponts sont coupés. Alors, un petit témoignage personnel. Quand on a commencé à Nanterre, on a voulu savoir si sur cette ville de Nanterre, 90 000 personnes quand même, il n'y avait pas déjà un témoignage chrétien. Paul nous dit qu'il ne veut pas aller là où d'autres vont, dans l'épître aux Romains, et nous, on voulait faire la même chose. Et donc, on a prié le Seigneur, on était à l'époque 5 ou 6, hein, pour savoir si il y avait d'autres chrétiens sur Nanterre et que le Seigneur nous les fasse connaître de façon que Nanterre est une grande ville, on peut très bien partager la ville, il n'y avait absolument aucun problème. Et parce que c'était voulu, parce que c'était notre désir profond et qu'on voulait honorer le Seigneur nous a donné de connaître des groupes chrétiens qui étaient donc sur Nanterre. Mais aucun d'entre eux n'était un groupe, comme je dirais, avec une vision d'évangélisation. C'était des groupes de prière qui étaient rattachés à différents groupes chrétiens, un à Boulogne-Billancourt dans le Point du Jour, peut-être vous avez entendu parler, donc d'autres étaient à Pontoise, etc., etc. Donc on leur a donné notre vision, notre désir, et là on a eu un accueil merveilleux. Parce que ces frères ont un zèle pour l'évangélisation vraiment merveilleux. Il faut dire ce qui est le monde. Pentecôtiste est actuellement en train de grandir dans le monde évangélique, c'est le plus rapide. C'est clair. Donc, voilà, on a été les voir et tout, on leur a dit, voilà, bon, alors certains tout de suite voulaient m'imposer les mains, je n'ai dit pas question, parce que l'imposition des mains, c'est pas n'importe comment. Et par contre, ils disent, on va prier. Alors, on commence à prier, et bien entendu, l'un d'entre eux commence à prier en langue, c'est-à-dire qu'il répétait sans arrêter des ticatécato, des choses de ce genre-là. Bon, donc le responsable du groupe, qui était un des anciens de l'Assemblée du Point du Jour, pentecôtiste à Boulogne-Billancourt, je dis, mon frère, on ne peut même pas prier ensemble, c'est moche, c'est terrible. Je dis, j'ai tellement envie qu'on fasse un travail ensemble pour honorer Dieu. Il me dit, bah d'accord, on va faire quelque chose. Qu'est-ce que tu proposes? Je dis, voilà, moi je propose qu'on fasse une journée de jeûne et de prière pour cette ville de Nanterre, mais comme on ne peut pas prier ensemble, on priera chacun chez soi. On a été jusqu'au bout du bout. Et je voulais honorer ses frères, parce qu'ils n'étaient pas tous à partir comme ça en vrille, comme on dit. Mais, et je sais que le Seigneur a été honoré, parce que je ne les ai pas déconsidérés, et je ne les ai pas refoulés. Et quand, à l'occasion, j'en vois l'un d'entre eux, qui était donc un ancien de cette assemblée, bien, je lui ai dit, voilà, merci encore, l'assemblée grandit avec, comme toute assemblée, hein. Mais je dis franchement, voilà. Donc, ce sont nos frères. Malheureusement, on sait qu'on va voir qu'il y a des extrêmes et qu'à certains niveaux, ça ne devient même plus du christianisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le pentecôtisme? En un mot, le mouvement de Pentecôte est un courant chrétien né lors du réveil du début du XXe siècle aux États-Unis. Le pentecôtisme, donc ce désir d'avoir tous les dons de l'esprit, en particulier de parler en langue, ne se développe qu'au XXe siècle parce que les premiers chrétiens, on n'en parle pas du tout. On en parle dans l'Épître aux Corinthiens, j'en ai dit vendredi soir, samedi soir, pardon, suffisamment pour que vous compreniez pourquoi cette Église était contaminée par cette histoire-là. Mais c'est aux les premiers chrétiens, vous lisez dans les autres Épîtres, Pierre, Jean, Jacques, pas un mot. Parce que on pense que ces choses avaient cessé, puisque la prophétie. Puisque les choses à venir étaient totalement données dans la parole de Dieu et que ce n'était plus nécessaire d'avoir ce genre de révélation. Je suis donc cessationniste. C'est-à-dire que je crois que les prophéties ont pris fin. Je pense que toutes ces choses ont pris fin parce que maintenant, nous avons l'entière et totale vérité. OK ? Donc, au XXe siècle, un courant chrétien de réveil commence aux États-Unis dans les milieux évangéliques. Il se caractérise par l'importance donnée à l'Esprit Saint, capable de susciter des signes, en particulier le chant ou le parler en langue, qu'on appelle aussi la glossolalie. Le fait de prononcer une suite de syllabes incompréhensibles, pouvant faire penser à une langue étrangère. Tiens, les Corinthiens, vous vous rappelez ce que j'ai dit samedi soir ? Ces charismes qu'évoquent ceux reçus par les apôtres à la Pentecôte comme des dons spirituels. Qu'est-ce qui s'est passé d'après moi ? Je pense que beaucoup de chrétiens ne sont pas satisfaits de leur vie chrétienne. Ils veulent un réveil dans leur vie. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui. Jusqu'à preuve du contraire, vouloir aller plus loin que le Seigneur, être rempli de l'Esprit, c'est une bonne chose. Donc ce sont des chrétiens qui étaient insatisfaits de leur vie chrétienne. Donc, au lieu de demander que l'Esprit Saint qui était en eux, comme j'ai expliqué ce matin, puisse prendre toute la place, ils ont commencé à prier pour que l'Esprit Saint vienne. Et c'était des réunions où il y avait un état d'esprit très particulier, une sorte de chaleur humaine, une sorte de, comment dirais-je, de manière d'être qui n'était plus le calme, la paix dans lequel ces choses s'inscrivent. C'était des prières malvenues, qui insistaient, des choses qui n'étaient pas bien. Alors effectivement, un esprit est venu. Je ne sais pas l'esprit de Dieu. Et à partir de ce moment-là, certains ont commencé à aller complètement en dehors de la vie chrétienne, et dans certains cas, le pentecôtisme était synonyme d'adultère, de débauche, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'on faisait passer le sentiment avant la lettre. C'est-à-dire que la Bible, ce que disait la Bible, ah, on me l'a dit, la lettre tue. Mais l'amour édifie. Quel type d'amour ? Où on se permet des familiarités avec des sœurs, où on se permet des choses de ce genre-là, et combien, malheureusement, de ces pasteurs ont été démis de leur pastorat pour avoir eu des attouchements et autres. Je ne dis pas que c'est pareil dans tout le mouvement pentecôtiste, je dis ce qu'étaient les extrêmes. Les spécialistes font remonter les origines du pentecôtisme à la prédication de deux hommes, Charles Fox Parham et William Joseph Seymour. Ce dernier, un pasteur afro-américain, est le plus emblématique de cette mutation du christianisme évangélique. Donc, le mouvement est né comme ça. Alors, je l'ai dit hier soir, et que ce soit clair entre nous, bien-aimés, chaque ethnie, nous sommes tous une même race. OK ? Mais nous avons des ethnies différentes et des origines différentes. Chaque ethnie a ses particularités, chaque ethnie a des qualités et chaque ethnie a des défauts. OK ? Je l'ai dit, j'ai honte pour moi, en tant qu'Européen, bien blanc, un Gaulois classique, de l'affection que mes contemporains ont pour l'argent. Je ne dis pas que les Africains en sont dénués, mais nous, c'est vraiment le matérialisme à fond, à fond, à fond. Nos chers amis africains, eux, eh bien, ils ont en arrière-plan tout ce qui est de la culture africaine, et en particulier donc des îles comme Haïti, où il y a le vaudou. Et aujourd'hui, malheureusement, et ce n'est pas une attaque, que ce soit clair, hein, je vous aime, bien aimé. Aujourd'hui, il y a des réminiscences. Et ça ne m'étonne pas que ce soit des pasteurs d'origine africaine qui ont commencé dans ce genre de choses. Parce que nos bien-aimés ont beaucoup plus de sensibilité aux choses spirituelles que nous, Européens. Parce que nous avons eu la grâce, mais qu'on est en train de perdre, d'avoir connu l'Évangile il y a plusieurs siècles, et que toutes ces choses qui existaient peut-être en France, et qui existent encore en France aujourd'hui, on jette des sorts en France aujourd'hui, je peux vous le dire. Mais heureusement, l'Europe a été en grande partie balayée de ces choses. Alors que dans en Afrique, où le christianisme s'est implanté beaucoup plus récemment, toutes ces choses existent encore. Vous comprenez, bien-aimés, je veux que ce soit clair, hein, que ce n'est pas du tout une attaque contre quoi que ce soit. Voilà. D'ailleurs, je veux que cet après-midi, ce soit plutôt des partages. Est-ce que ce que je viens de vous dire choque ou est-ce que c'est une réalité? C'est la réalité? Bon. Donc, voilà. Donc ça ne m'étonne pas, comme je le dis tout à l'heure, que ce charisme, ce désir de charisme, mais c'était positif au départ. Mais malheureusement, un autre esprit que l'Esprit de Dieu est venu et tout a commencé à partir de travers. Si le mouvement de Pentecôte est né dans un contexte historique encore ségrégué, ah oui, ça c'est pareil, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, à l'époque, la ségrégation existait. Hier soir, ou avant-hier soir, je ne sais plus, bref, j'ai regardé le film, peut-être vous l'avez vu, Le Majordome. Vous avez vu ce film, Le Majordome ? C'est l'histoire d'un homme qui, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, va donc, pour des circonstances un peu particulières, devenir le majordome de la Maison-Blanche. Et il va donc se faire au moins 5 ou 6 présidents de suite. Le début de ce film est abominable. J'ai honte de la manière dont les baptistes du sud avaient comme manière d'être vis-à-vis des Africains. Des esclaves. C'est honteux. Honteux. C'est insupportable. Donc, je comprends très bien que dans ce cas de ségrégation, certains ont voulu s'échapper un peu d'un baptisme qui n'était pas très reluisant, qui n'a rien à voir avec les baptistes d'aujourd'hui en France, hein, c'est autre chose. Et de vouloir dire, on va avoir notre propre foi, notre propre mignon, vision des choses. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le mouvement de Pentecôte naît dans un contexte historique encore ségrégué et se place au départ au-dessus des différences, hein, c'est-à-dire qu'on va aller autre part, on va aller au-delà. D'ailleurs dans le film Le Majordome, on a la même chose au niveau social et politique. Le développement de cette vague va être extrêmement rapide et particulièrement fort, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi dans le sud du continent, aujourd'hui par exemple au Brésil, dans les pays comme ça. En France, il est présent depuis les années 1930. Donc le pentecôtisme est quelque chose de relativement récent. Les réformateurs, Luther, Calvin, Zwingli, tous ces gens-là, n'en parlent pas du tout. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors, il y a eu plusieurs vagues. Et la dernière vague, la troisième vague, qu'on appelle la vague de Toronto, là, c'était les miracles. Les miracles, les tombaient de l'or, du ciel, les bras rallongeaient. Et malheureusement, dès qu'il y a à la télévision un reportage sur une église évangélique, on ne va pas prendre une église évangélique comme vous, gentillette, tout. On va prendre quelque chose qui choque un peu. Alors, vous voyez des gens qui sont par terre en train de hurler. Alors, bien entendu, vous voyez un peu l'image que cela donne sur le monde évangélique. Ces gens, donc ceux qui ne sont pas extrémistes, ont un zèle remarquable pour l'évangélisation et pour la mission. Tout récemment, j'ai dû aller chez l'ORL, j'avais un problème de gorge, bon, je discute avec lui, c'est qui je suis, etc. Il me dit, vous donnez toujours vos conférences sur le protestantisme. Il me dit, tiens, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai rencontré des pentecôtistes. Moldave. Ouais. Dans les pays de l'Est, où l'évangélisation est actuellement extrêmement forte, eh bien, il y a beaucoup de pentecôtistes. Mais ces gens-là sont des pentecôtistes light, dans le sens que, bon, bah, ce sont des pentecôtistes qui leur annoncent l'évangile, bah, ils sont venus pentecôtistes. Si vous étiez né dans un milieu darbiste, peut-être que vous seriez toujours darbiste, etc., etc. Et il me dit, j'étais invité au mariage, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Il me dit, vous les connaissez? Mais je dis, oui, je les connais. Ce sont des gens qui ont un zèle merveilleux pour le Seigneur, pour l'Évangile et tout. Malheureusement, alors aujourd'hui, les églises pentecôtistes sont surtout représentées par ce qu'on appelle les assemblées de Dieu, les ADD. Il y a à peu près en France 500 églises, même plus aujourd'hui, et puis aussi le monde de la Metz, la Metz, M-E-T-Z, la mission évangélique parmi les Tziganes. Et Dieu a fait, parmi les gens du voyage, un travail extraordinaire, hein. Des gens qui buvaient, qui battaient leurs femmes, qui sont devenus chrétiens et qui ont arrêté. Donc on ne peut pas, et je ne veux pas mettre le pentecôtisme à la poubelle. Simplement, je dois dire, il y a dans le pentecôtisme des dérèglements assez réguliers, et malheureusement, c'est là que ça ne va plus. Alors, le pentecôtisme vient donc de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Alors, on va en voir ensemble certains passages donc, du livre des Actes, au chapitre 2, où on va avoir une xénolalie. Est-ce que, pour l'instant, il y a des choses... N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. N'hésitez pas, hein. Tout va bien? Je ne vous choque pas en disant que j'aime mes frères pentecôtistes? Bon, d'accord. Parce que j'ai connu des milieux chrétiens, baptistes, enfin, évangéliques par baptiste, où un pentecôtiste était déjà dans les bras de Satan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc dans ce livre des Actes, chapitre 2? Merci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc le Saint-Esprit devait venir, le Seigneur leur avait dit d'attendre. Donc ils attendent, gentiment. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'avant, impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, les langues, quand on parle ici, je m'en, c'est dommage parce qu'on a pris des langues. On aurait mis des faisceaux, parce que ça a ambiguïté avec les langues qui viennent après. Donc, il y a ces démonstrations de choses qui viennent, semblables à des langues de feu, qui viennent séparer des uns des autres et qui se posent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues. Le mot qui est employé ici, langue, c'est un langage. La haine, c'est un langage. Glossa, c'est un langage. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Autrement dit, on voit très bien que ces personnes vont parler, non pas de leur propre initiative, mais selon ce que l'Esprit de Dieu va leur donner de dire. D'accord? La suite, s'il te plaît. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Autrement dit, c'était la Pentecôte, Soukhot, la fête des tabernacles, c'était une des trois grandes fêtes juives, et c'est pour ça que beaucoup de juifs qui venaient de tout le bassin méditerranéen venaient pour cette fête de Soukhot à Jérusalem. Le Seigneur fait bien les choses, il attend qu'il y ait beaucoup de monde. C'est bien. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. C'est pas le même mot ici. C'est le mot dialecte. Dialectos en grec, dialecte en français. C'est-à-dire que si là c'était une langue, là maintenant ça devient une langue particulière, donc un dialecte. C'est pas n'importe quoi. C'est un dialecte audible et qui a donc une valeur au niveau de celui qui l'entend. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et fut confondue donc de les entendre parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient aux uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Oui, parce que le Seigneur Jésus n'a pas pris des hommes de grande, merveilleux, etc. Il a pris des galiléens. La Galilée, c'était le nord d'Israël, autour du lac de Galilée, comme Pierre, Jean, etc. Et on les considère un peu comme des ploucs. Des gens de la campagne, des ruraux. Donc c'est pour ça qu'ils sont étonnés que ces Galiléens parlent d'un seul coup des langues étrangères. Imaginez le gars de la Creuse, j'ai rien contre les gens de la Creuse, hein. D'un seul coup parle chinois. Ça vous ferait drôle, et puis moi aussi. Et pourtant c'est ce qui s'est passé. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Mais ils disent comment ? Excuse-moi. voilà, c'est Jean de Galilée, merci. Image suivante. On a vu les Galiléens. Voilà. Et comment les entendons-nous ? Dans notre propre langue à chacun. Dialecte. Donc ce n'est pas une langue quelconque, c'est un dialecte. Une langue construite. Une langue construite. Un dialecte, c'est une langue construite. Et dans notre langue maternelle. Les langues maternelles, donc les langues qu'on a apprises à l'école, les langues qu'on en parle ensemble. Il y avait là les Parthes, les Mèdes, les Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, Parthe, etc., etc., l'Égypte, le territoire de Libye, voisin de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Autrement dit, ce sont tous des juifs qui viennent de la diaspora qui a eu lieu avant. Vous savez que les juifs ont été persécutés dans l'histoire, et là donc ils ont été dans tout le monde et ils viennent en pèlerinage à Jérusalem. Et donc on a ici, je crois, j'avais noté dans ma Bible, une vingtaine de langues différentes quand même. Je retrouve parce que j'ai noté. Autrement dit, ces gens-là, ils entendent des personnes qui parlent leur langue maternelle, donc des langues construites. Et ces langues disent quoi ? Eh bien, ils glorifient Dieu. Voilà. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, tu disais les uns les autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres qui se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient bu, et que c'est à cause de ça qu'ils parlaient comme ça. Donc, dans le livre des Actes, il est clairement dit des langues naturelles, et je vais noter un nombre important, je crois que c'est 12. C'est pas bien important, mais c'était quand même un nombre remarquable. Voilà. Il y avait plus de 15 langues maternelles. Ça, c'est la Pentecôte. La véritable Pentecôte. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Voilà. C'est la naissance de l'Église. Toutes les personnes qui sont là, il est dit que ce sont des juifs ou des prosélytes. Qu'est-ce que c'est qu'un prosélyte ? C'est quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui a accepté la religion juive. C'est ça, un prosélyte. D'accord ? Donc, ces gens-là habitaient, vous avez vu, un peu partout dans le monde méditerranéen. Et ce jour-là, donc, c'est le début de l'Église. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils parlent des merveilles de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas d'abord pour une instruction, c'est pour faire comprendre que maintenant, tout le monde peut louer le Seigneur. Et on a tout à fait la vision du Christ quand il dit à Samaritaine, mon Père cherche des adorateurs. Et là, la langue pour adorer Dieu n'est plus simplement que l'hébreu, mais l'Église est offerte à tout le monde. Et vous avez dans notre Église des gens qui louent le Seigneur avec un accent italien, Guadeloupéen, africain, du nord de la région parisienne, etc., etc. Autrement dit, c'est le début de l'Église, c'est-à-dire c'est la première fois que tout le monde peut, comme nous l'avons fait ce matin, adorer le Seigneur, non plus en hébreu qui était la seule langue autorisée, en araméen, mais dans la langue maternelle qui est la vôtre. Voilà le but de la Pentecôte. Et c'est ainsi que le début de l'Église, c'est-à-dire que tous les êtres humains peuvent être sauvés s'il croit à l'œuvre du Christ. Donc ici, on a une xénolalie, c'est-à-dire une langue. Xéno, ça veut dire étranger. On dit que les Français sont xénophobes, c'est-à-dire qu'ils ont la phobie des étrangers. Xénos, c'est étranger. Donc là, ici, c'est clair, la langue, les langues que parlent les apôtres et les disciples sont donc des langues compréhensibles, tout à fait maternelles, etc. C'est clair ? Très bien. Ensuite, il va y avoir un développement de plus en plus important. Et disons qu'il y a toute une frange du pentecôtisme qui va dire, si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. La réception du Saint-Esprit, comme on l'a vu là, donne à l'homme, à la femme, de parler en langue, et si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas sauvé. Le problème, c'est que les langues dont on parle ici, là, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu là. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu là. Les langues telles que les pentecôtistes se réclament, dont ils se réclament, ce ne sont des langues qui n'ont aucune structure grammaticale et qui sont intraduisibles. Alors, il y a un livre que j'ai réussi à avoir, un truc intéressant. Je vais vous faire comprendre pourquoi on ne peut pas traduire. Parce que, bien entendu, vous savez que la Bible dit que si quelqu'un parle langue, il faut que quelqu'un traduise. S'il n'y a pas de traducteur, tu te tais. Traduire. Je prends un exemple. Je prends le mot neige. Je prends le mot neige. Hugues, s'il te plaît, peux-tu me donner le mot neige dans la langue de ton pays? Mais il n'y a pas la neige dans ton pays pourtant. Non, mais donc normalement, bien sûr, vous savez ce que c'est que la neige, hein, mais normalement, si je dis neige, toi, tu ne peux pas traduire. Tu ne peux pas traduire. Maintenant, on traduit parce que vous avez les images, etc., etc. Donc, si je dis neige à un Anglais, il va me dire snow. Donc, comment ça se fait? Alors, les linguistes nous disent, il faut un signifiant et un signifié. Le mot neige, c'est le signifiant. Quand je dis neige à un Anglais, dans sa tête, si bien sûr il faut qu'il soit bilingue, il voit le mot va lui dire quelque chose, l'objet, et lui, de l'objet, il va dire snow. C'est ça, traduire. Est-ce que vous comprenez? C'est simple, hein? C'est ce qu'on appelle relation signifiant-signifié. Étant donné que dans le parler en langue qu'on nous propose dans le monde pentecôtiste, c'est intraduisible parce qu'il n'y a pas de signifiant-signifié. Il y a une étude qui a été faite par les linguistes. Vous savez, le parler en langue, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé. Les musulmans le pratiquent aussi. Et dans beaucoup de religions, on en a parlé hier soir, on pratique ce parler en langue. C'est glossolalie, c'est des suites de mots. Alors, nos chers amis ont été enregistrés, et les linguistes ont essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Et bien entendu, la glossolalie n'est pas une langue. Voilà ce que disent les linguistes. Ils disent que ça leur fait du bien. C'est une manière pour les gens de se défouler. Alors là, vous avez un corpus, c'est-à-dire, je vais vous lire quelques mots. Kupoi, Chandré, Filé, Sundrukumi, Sandré, Naza, Yataki, etc., etc., etc. Donc des mots comme ça. Les linguistes entendent, ils enregistrent. Y a-t-il une structure grammaticale? Non. Toutes les langues sur la face de la Terre ont une structure grammaticale. Verbe, sujet, complément. Là, il n'y a rien de tout ça. C'est des suites de mots, comme si vous donniez, par exemple, une suite de capitales du monde. Ce n'est pas une langue, c'est des mots qui n'ont... Et en plus de ça, il n'existe pas de relation entre signifiant et signifié. Et donc, ces linguistes ont dit d'une manière claire, nette et précise, ce n'est pas une langue telle qu'elle est ici donnée dans le livre des Actes au chapitre 2. Puis peu à peu, le monde pentecôtiste va évoluer, donc toujours à ses extrêmes, certains qui sont très proches de nous. Hein. Quelque part, si on me dit Robert, es-tu pentecôtiste? Si j'exclus les pentecôtistes, je suis pentecôtiste. Je crois qu'à la Pentecôte, c'est parti quelque chose. Donc il y a des pentecôtistes qui seraient très à l'aise parmi nous. Mais d'autres, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, et là, bien entendu, là, on diverge complètement concernant le salut et c'est plus possible. Et puis, il y a eu, peu à peu, le monde pentecôtiste extrême a envahi l'Église catholique. C'est ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Donc c'est le parler en langue, selon les pentecôtistes et non selon ici, parce que c'est le même mot, je suis gêné, chez les anglicans et chez les catholiques. Alors là, dans le monde pentecôtiste, il y a eu un gros problème. Parce qu'on s'est dit, mais ces gens-là, ils parlent en langue comme nous. Ils ne sont pas des nouveaux. Donc il y a eu une marche arrière très importante dans le mouvement pentecôtiste, parce qu'ils voulaient absolument se séparer de ces catholiques du renouveau charismatique, qui, eux, n'étaient pas du tout des chrétiens, alors que beaucoup de pentecôtistes étaient quand même chrétiens. Et donc là, il y a eu une séparation, mais aujourd'hui, on peut dire que le parler en langue est devenu un signe d'unité spirituelle. C'est-à-dire que c'est un système, le parler en langue, qui unit une frange du monde évangélique avec le monde catholique. Et les catholiques parlent très bien en langue. Parce que parler en langue, on va voir tout à l'heure comment ça se passe, c'est pas compliqué du tout. Donc ça a été chez le monde pentecôtiste chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas. Le parler en langue n'est pas une manifestation, une preuve comme quoi la personne est née de nouveau et qu'elle a reçu Saint-Esprit. Vous comprenez? Et ça a été très dur pour eux d'admettre ça. Et donc, dans le monde pentecôtiste, il y a actuellement une séparation entre ceux qui disent « nous ne voulons pas, c'est pas parce qu'ils parlent en langue comme nous qu'ils sont comme nous ». Donc on se sépare de ça. Donc, pourquoi le parler en langue? Comment ça se passe? Dans beaucoup de religions, on cherche l'extase et la transe qui va déclencher chez l'être humain, les médecins vous le diront, une libération d'endomorphine, c'est-à-dire la molécule du bonheur. Je crois que je vous ai dit que j'avais connaissé un pasteur qui parlait en langue chez lui et qui m'a dit « ça me fait du bien ». Autrement dit, chez certaines personnes, ça va être la musique. Il faut qu'ils fassent de la musique. Chez d'autres, ça va être la peinture, la sculpture, enfin, toutes les choses qu'on peut faire, qu'on aime, qui vous font plaisir, qui vous font du bien et qui vont libérer chez vous de l'endomorphine en quantité importante, donc la molécule du bonheur. Le problème, c'est que il y a un aspect religieux derrière. Lorsque les personnes parlent en langue, alors qu'ils ne sont pas forcément chrétiens, mais parce qu'ils parlent en langue, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils peuvent, au travers du parler en langue, dire tout et n'importe quoi. Et il y a un livre qui nous montre clairement qu'un frère qui a analysé et discuté avec ces gens qui parlaient en langue, ben certains donc blasphémaient. Parce que quand vous parlez en langue, vous n'êtes plus le maître de vous. Vous êtes sous une autorité, une extase, une possession qui peut être satanique, et on peut aller jusqu'au vaudou. Les gens qui pratiquent le vaudou, qui rentrent dans une église pentecôtiste, ils sont à l'aise. On leur parle de Jésus, mais bon. Mais par contre, ils peuvent exercer ce qui leur plaît, à savoir ce mouvement aller vers l'extase et la transe. Et l'homme religieux est plus fragile. Pourquoi? Parce que nous sommes, nous, chrétiens, capables d'avoir des sentiments très forts quant à notre foi. Qui d'entre nous n'a pas pleuré ou a eu des moments, sinon d'extase, mais très forts, en lisant un passage, en chantant un cantique, enfin bref, un chrétien peut être soumis, hein, et c'est pour ça que les médecins des fois nous regardent d'un air un peu particulier, à des sentiments très très forts qui ne sont pas de l'extase mais qui sont vraiment des sentiments que seul je crois un chrétien peut connaître, parce que notre amour pour le Seigneur, je vois quand on prie, quand on chante, il y en a qui sont, oui, on est à fond dedans. Et souvent quand on est dans une atmosphère un peu particulière comme dans ces églises pentecôtistes, eh bien, on peut très vite basculer, et ce n'est plus moi qui dirige ma vie, et ma prière, et mon esprit, mais je me mets sous une autorité qui peut me faire énormément de mal. Chez d'autres religions, on a ça. Dans l'hindouisme, il y a les mantras. Vous avez entendu parler des mantras ? Ce sont des phrases que les bouddhistes, surtout les hindouistes, pardon, mais il y en a qui sont bouddhistes en plus, se répètent. Avec beaucoup de « je sais pourquoi ». Si, je sais pourquoi. Les linguistes vous diraient. Et ils rentrent dans une espèce de transe. Vous avez également donc les derviches tourneurs, musulmans. Une branche de l'islam s'appelle les soufis. Ce sont ceux qui ont la relation la plus spirituelle, dans le bon sens du terme, avec Dieu. Mais eux aussi chantent, dansent, en tournant sur eux-mêmes, jusqu'à être un peu comme dans le vaudou. Autrement dit, on analyse très bien ce besoin et ce désir qu'ont certaines personnes de vouloir arriver à un moment d'extase, quitte à ce que ce soit avec des herbes hallucinogènes. On veut sortir de son quotidien, on veut sortir de sa vie actuelle, et ça devient vite une addiction. Ça devient vite une addiction d'avoir comme ça des moments d'extase dans le monde religieux et aussi dans le monde chrétien. Avez-vous des questions ? Ça va ? C'est clair ? Oui. Alors, je suis d'accord. Si je disais tout à l'heure, je suis un peu gêné parce qu'on appelle ça le parler en langue. Mais il faudrait dire que ce n'est pas le parler en langue d'acte 2, tu vois. C'est autre chose qui n'a rien à voir. Mais le monde l'appelle le parler en langue et je ne peux pas donner d'autres termes pour l'instant, tu vois. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec... C'est ça qui est important. C'est que vous voyez la déviance totale qu'a connue le monde pentecôtiste, qui, à la recherche de choses plus fortes, ben, s'est livré à un esprit qui le détruit complètement. Alors, il y a quand même des chrétiens parmi eux, pour ça que j'ai dit au départ, mais il y en a qui sont complètement en dehors du coup. Ils peuvent aller dans n'importe quelle religion où ils peuvent retrouver la même chose, ils y vont. Alors, bien sûr, ce monde pentecôtiste a aussi, au niveau spirituel, au niveau de la doctrine, des visions très particulières. Par exemple, Paul nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et j'ai eu entre les mains une cassette audio faite par un pasteur pentecôtiste qui proclamait qu'il fallait parler en langue pour s'édifier soi-même. C'est-à-dire que vous êtes libre, vous devez être mature, etc., etc. Mais en réalité, la Bible ne dit pas que c'est bien. Dans l'Épître aux Corinthiens, quand Paul nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, ben c'est négatif. Puisqu'il est dit juste après, celui qui parle, ça c'est dans 1 Corinthiens 14:4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, on pourrait dire se gonfle lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Et on a vu ce matin que tous les dons que le Seigneur donnait aux chrétiens étaient pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La vision de Paul, il insiste. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, autrement dit, lorsqu'on me dit que s'édifier soi-même, c'est positif, eh bien non, pas du tout. Mais quand, encore une fois, on sort d'un verset 3-4 mots et on essaie de ne pas passer la pilule. Donc c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. De même, 1 Corinthiens 14-12, de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église et que vous cherchiez à en posséder abondamment. Autrement dit, on s'aperçoit que si au départ, il y avait une recherche personnelle d'un plus dans sa vie chrétienne, ça devient ensuite une attaque contre la parole de Dieu les chapitres 12 et 14, en particulier sur le don que c'est en eux. 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Quand je parle ici d'une langue, c'est ce genre de choses. Si tout à l'heure arrivait un Chinois ici, et que Hugues commence à parler en chinois, par un don du Saint-Esprit, pour annoncer l'évangile aux Chinois ou je ne sais pas quoi, qu'il le fasse. Mais il faudra qu'un autre traduise. Qu'est-ce qu'il a dit, notre frère, là? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Donc l'un, le don pour parler dans une langue, selon acte 2, et l'autre, un don pour annoncer ce qu'il est. Mais ça, c'est des choses qui ont cessé, puisque maintenant, nous avons la révélation pleine et entière. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, se sert de choses extraordinaires pour annoncer l'évangile dans des pays où il n'y a pas forcément l'évangile, comme en Afrique du Nord. Je pense que vous savez ce qui se passe là-bas. Donc, il faut faire très attention, parce que non seulement on touche l'œuvre du Saint-Esprit en trafiquant la parole de Dieu, et en plus de ça, on touche à l'œuvre de la parole de Dieu elle-même. Seigneur, merci parce que tu as voulu sauver des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. C'est quelque chose qui réjouit mon cœur, parce que seul l'agneau pouvait ouvrir ce fameux livre. Mais lui, il est dit qu'il a été immolé, qu'il a donné sa vie pour cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ton église, à Argenteuil comme autre part, tu te plais à voir des gens venant de régions différentes, parce que c'est ton œuvre qui manifeste justement la grâce de la charité, de l'amour qu'il peut y avoir entre gens d'ethnies différentes. Seigneur, je te loue de ce qu'on a pu parler, de cet aspect du pentecôtisme qui s'est égaré loin de la vérité. On n'est pas là pour condamner, on est là pour être attristé, oui. Et je te demande, Seigneur, que si nous avons des gens que nous connaissons, d'avoir, qui sont pentecôtistes, d'avoir avec eux une déférence qui vient du fait qu'ils sont des frères, si c'est le cas. Et puis, Seigneur, ben, si tu permets qu'on discute avec eux pour leur montrer que ce que tu veux, toi, est ce qui doit être fait. Merci de ces moments passés avec mes bien-aimés ici à Argenteuil. Garde-les, Seigneur, dans ta paix, dans cette paix qui passe toute chose au nom de ton Père.